La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Dans quelques mois, le 21 juillet prochain, seront fêtés les 50 ans des premiers pas sur la Lune. Personne n'a oublié cette mission Apollo 11 avec son petit pas pour l'homme et son bond géant pour l'humanité. Et au total, 12 hommes, on l'oublie, ont marché sur notre satellite. L'arrivée d'humains sur la Lune qui reste probablement l'une des aventures les plus incroyables dans le domaine spatial. Mes invités, Charles Frankel et Philippe Hénarejos, publient chacun de leur côté un ouvrage consacré aux missions Apollo. Ils sont mes invités dans un instant pour nous faire le récit de ces différentes épopées, pour nous faire revivre le quotidien des astronautes et comprendre ce qu'ils sont bien allés faire là-bas. Et j'attends vos messages dès maintenant, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, on va s'intéresser à la physique des groupes d'abeilles.
Oui, c'est des physiciens américains qui se sont amusés à secouer gentiment des essaims d'abeilles. Et encore une fois, à la fin, on en apprend plus sur leurs comportements sociaux. On voit ça tout de suite.
Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Ils ont marché sur la Lune, l'aventure Apollo, cet après-midi dans l'émission avec mes invités que je salue, le planétologue Charles Frankel et mon confrère Philippe Hénarejos. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et bienvenue Charles Frankel. À quoi ça sert finalement? À quoi ça a servi d'envoyer des hommes sur la Lune?
excellente question. Ça a dynamisé tout un peuple, d'abord le peuple américain, et je dirais même l'humanité, en leur donnant des rêves et en faisant progresser la technologie. On a appris également des choses sur la Lune et en retour sur notre propre planète.
Donc il y a eu un peu de science quand même.
Il y a eu quand même de la science.
Oui, on va en discuter avec vous, bien sûr. Philippe Hénarejos, vous êtes un monomaniaque de la Lune, hein, c'est ce que j'ai découvert en lisant cet ouvrage, qui en est vraiment la preuve. Vous êtes délecté à raconter invisiblement cette épopée lunaire, hein.
Oui, c'est une histoire, je suis tombé dedans étant petit.
Vous aviez quel âge au moment d'Apollo 11?
Au moment d'Apollo 11, j'avais 2 ans, donc j'ai pas vu. Mais les dernières missions, je les ai suivies à la télé. Et je pensais la connaître, cette histoire. Je la connaissais bien, en réalité. Mais en travaillant pour faire ce livre, j'en ai beaucoup appris encore.
Eh bien, on va en apprendre beaucoup grâce à vous deux dans un instant. Et on se retrouve avec les messages et les questions des auditeurs. Axel, à la une aujourd'hui, eh bien, vous nous proposez de secouer des essaims d'abeilles.
C'est ça.
C'est une bonne idée pour se faire piquer, finalement, non?
On va rien faire nous-mêmes, on va laisser faire les physiciens à l'université d'Harvard. Je peux vous assurer, Mathieu, ils ont fait ça gentiment, on a les vidéos.
Ouais, et pourquoi faire d'ailleurs, Axel? C'est ça la vraie question. Hein.
En fait, un essaim d'abeille, quand il s'accroche à une branche ou qu'il s'accroche sur le rebord d'un toit, il prend la forme d'une grosse grappe avec des milliers d'insectes dedans. Et l'ensemble se comporte comme un fluide visqueux, d'où l'intérêt pour les physiciens. Et c'est pour savoir comment chaque abeille dans la masse adapte son comportement que ces chercheurs ont décidé de les secouer un tout petit peu. Pour discuter des résultats publiés dans la revue Nature Physics, nous sommes au téléphone avec l'éthologue Aurore Averguez-Weber. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour le CNRS presque exclusivement avec des abeilles au centre de la recherche pour la cognition animale à Toulouse. Alors avant de voir ce qui se passe quand on les secoue, commençons au calme, on va dire. Pourquoi est-ce que les abeilles choisissent parfois de se mettre en boule comme ça?
Alors c'est ce qu'on appelle l'essaimage, donc la fabrication d'essaims. Ça se passe surtout au printemps, début de l'été pour laisser à l'essaim suffisamment de temps pour reconstruire une nouvelle colonie. Et ça se passe pour 2 raisons principales, soit parce qu'il y a surpopulation dans la ruche. Et donc, dans ce cas-là, la reine qui est établie va partir avec une partie des ouvrières pour aller faire une nouvelle ruche plus loin et donc laisse la ruche à une nouvelle reine qui va donc prendre le contrôle de la ruche. Et donc, et ce, quand il y a un problème de surpopulation. Et sinon, l'autre cas, c'est quand la reine est malade ou vieillissante ou qu'elle ne peut plus pondre. Dans ce cas-là, là aussi, elle est, entre guillemets, poussée à partir. Et elle part en général donc avec toute une cohorte d'ouvrières pour essayer, donc elle est rejetée par la ruche et il y a quand même une certaine partie d'ouvrières qui la suit et donc là aussi il y a SMH dans ce cas-là et donc l'essaim va passer maximum 3 jours à essayer de trouver un nouvel endroit pour s'établir. Et donc dans ces moments de repos il se met sous forme de grappe comme ça effectivement.
Mais l'idée dans cette forme c'est quoi? C'est de faire bloc autour de la reine pour la protéger, c'est quoi?
Effectivement il est très important qu'elles restent toutes ensemble déjà pour ne pas se perdre. puisqu'il faut qu'elles gardent la cohésion pour après pouvoir construire une nouvelle colonie tout ensemble, puisqu'une abeille qui vit seule ne peut pas survivre, elle a vraiment besoin de la société pour survivre. Et en même temps, effectivement, ça permet de garder l'humidité, la chaleur et de protéger effectivement la reine au milieu de cette grappe.
Alors ici, dans ces travaux, les chercheurs ont accroché des essaims à des morceaux de bois et puis ensuite, ils les ont secoués tout doucement avec un moteur pour mimer, comme ils disent, les effets du vent dans les branches. Comment réagissent les abeilles dans ces cas-là alors ?
Eh ben du coup, ça c'était assez intéressant cette modélisation, parce que moi je n'avais jamais vu une étude exactement montrer de façon très précise le mouvement. Et ce que l'on constate, c'est que les abeilles, lorsqu'elles sont donc secouées latéralement, elles vont avoir tendance à le garappe, comme vous dites, va s'étaler le long de la branche de bois, donc elle offre moins de surface à l'oscillation. Et effectivement, c'est beaucoup plus stable. Donc ils constatent ça. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'après, ils essayent de comprendre comment ça se met en place. Parce que là, on voit vraiment un comportement qui a l'air intelligent, réfléchi. Ok, j'ai cette pression, donc pour compenser, je vais m'étaler, ce qui est plus stable. Mais en fait, chaque abeille n'a pas l'information globale de la forme de l'essaim. Et donc après, ils ont pu montrer, à la fois par de l'observation du comportement de chaque abeille et par une modélisation pour montrer que effectivement ça marche comme ça, que chaque abeille, donc elle a la juste connaissance de est-ce que ça lui tire les pattes dans un sens ou dans l'autre lorsqu'elle est sur la grappe, et que l'abeille en fait va aller du côté où il y a le plus de pression, où ça a le plus de tension plutôt, l'endroit où ça tire le plus pour renforcer l'édifice, pour éviter que ça craque. Et juste par faire ça, chaque individu faisant ça, et ben ça entraîne un étalement de la structure, ce qui est beaucoup plus efficace pour résister du coup aux oscillations.
Donc ça veut dire qu'en cas d'urgence, chaque individu donne un peu plus d'énergie pour assurer la survie du groupe. On ne voit pas ça chez toutes les espèces quand même.
Non, c'est vrai que cette idée qu'on appelle en biologie un comportement altruiste, c'est-à-dire pas quelque chose qui a un intérêt pour soi, qui est plutôt coûteux pour soi, mais qui a un intérêt pour les autres ou pour la société dans son ensemble, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les insectes sociaux. Donc c'est une des caractéristiques que justement toutes les ouvrières, que ce soit chez fourmis, chez les guêpes, chez les abeilles, vont déjà se sacrifier en termes de reproduction, puisqu'elles ne se reproduisent pas elles-mêmes, il n'y a que la reine qui se reproduit, mais aussi vont faire le travail et parfois se mettre en danger, ou dans ce cas-là prendre un peu plus de tension, un peu plus de poids, pour le bien de la colonie. Et c'est vrai que c'est quelque chose de spécifique que l'on pense lié justement à leur génétique.
Alors génétique, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire que donc les abeilles, tout comme nous, donc elles ont un certain nombre de chromosomes qui leur viennent de leur père et de leur mère. Or, ce qui est intéressant chez ces espèces-là, c'est que les mâles, en fait, n'ont pas de père. Ils n'ont que la moitié du patrimoine génétique de leur mère. Leur mère, en fait, n'utilise pas de spermatozoïdes pour créer des mâles. Et de ce fait-là, ça entraîne que les ouvrières, elles sont plus proches des autres ouvrières qui sont leurs sœurs, génétiquement, donc elles ont plus de chromosomes en commun avec leurs sœurs et leurs frères qu'avec leurs propres enfants si elles en faisaient elles-mêmes. Et de ce fait, d'un point de vue de l'évolution, puisque la sélection naturelle agit au niveau des gènes, du point de vue de l'évolution, c'est beaucoup plus intéressant pour elles, pour reproduire le plus grande part de leur patrimoine génétique, de protéger leurs sœurs et leurs frères, et de se mettre la reine qui va donc produire plus de frères et de sœurs, que de se reproduire elles-mêmes. Et donc, ça entraîne ce comportement altruiste où elles ne se reproduisent pas et elles aident l'ensemble de la colonie et la reine en particulier pour la sauvegarde de leur patrimoine génétique.
Aurora Vargas-Weber, quand on voit dans la nature donc ces grappes d'abeilles sous forme d'essaim, est-ce qu'elles sont vulnérables dans cette situation particulière avant de retrouver un lieu propice ou pas ?
Oui, c'est effectivement très impressionnant les essaims, à la fois à la voir sur grappe et à la fois on les voit passer tout un flux d'abeilles, c'est très impressionnant et pas dangereux parce que dans ce cas-là, voilà, elles sont pas du tout agressives, elles recherchent un endroit. Mais elles-mêmes sont vulnérables bien sûr parce qu'elles ne sont pas protégées, elles sont face aux intempéries. Donc bon, en belle saison, c'est peut-être pas un grand problème, même s'il y a un problème de sécheresse. Mais surtout, elles ne peuvent pas faire de réserve et elles ne peuvent pas élever de jeunes dans ces conditions. Elles ont besoin de former, vous savez, là, ces petites cellules en hexagone pour stocker le miel ou pour faire des jeunes. Et donc, elles ne vivent que sur leurs réserves qu'elles ont pris avant de partir. Donc, elles se sont gorgées de miel avant de partir pour pouvoir faire ce voyage. Mais ça peut durer que, voilà, 2-3 jours maximum. Et après, elles vont commencer à mourir de faim, malheureusement.
Très rapidement, pour terminer, quand on voit ces essaims dans la nature, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que, comme dans les dessins animés, on peut se faire attaquer par toutes les abeilles en même temps ?
Non, c'est très impressionnant, ça fait peur, mais elles ne sont pas dangereuses, elles ne vont pas attaquer, puisqu'elles ne sont pas en défense de la ruche, elles sont vraiment en train de chercher un endroit. Par contre, il faut bien sûr rester, faire attention de ne pas les écraser ou voilà par ce genre de mouvement, donc autant se mettre à l'écart, puisque bien sûr, si on les écrase ou elles se sentent attaquées, elles vont répondre, mais vraiment, elles sont beaucoup moins dangereuses que si on s'approche d'une ruche, où là, les gardiennes vont protéger la ruche, vont protéger leur environnement.
Merci Aurore Avargas-Weber, vous qui travaillez
avec
donc au Centre de Recherche sur la Cognition Animale de Toulouse au CNRS. Merci beaucoup pour ces explications passionnantes. À demain Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les premières images de l'astéroïde Ryugu sont arrivées. Les deux micro-robots de l'agence spatiale japonaise se sont posés samedi dans la soirée à plus de 280 millions de kilomètres de la Terre sur un astéroïde de seulement 400 mètres de diamètre. Vous confirmez, Philippe Hénarajos, c'est Rikiki. Cette mission lancée en 2010 est une première pour le Japon et une réussite technique incontestée. Le contact a rapidement été confirmé avec les deux petits rovers et ils ont donc commencé déjà à explorer. Peut-être enfin un traitement pour les apnées du sommeil. Une équipe de Boston a décidé d'associer deux médicaments déjà sur le marché aux États-Unis lors d'un test mené sur 20 patients sévèrement atteints. Les résultats sont très encourageants d'un point de vue de la respiration et quelques effets secondaires sur la qualité du sommeil tout de même. Environ 13% des hommes américains et 6% des femmes entre 30 à 70 ans souffrent de ce problème d'apnée et la recherche de traitement stagne hélas depuis plusieurs années. Et puis pour terminer, des pieuvres sous extasie, 8 tentacules, 3 cœurs et un sang bleu, certes, et pourtant ces animaux extrêmement intelligents partagent une similitude avec l'espèce humaine, l'extasie qui les rend très sociables et amicales. Une étude parue dans la revue Current Biology montre que lorsque plusieurs pieuvres normalement solitaires sont plongées dans un bain contenant de faibles quantités de MDMA, appelée aussi la drogue du bonheur, eh bien elles se rapprochent et s'intéressent beaucoup plus aux autres. Une expérience évidemment à ne pas reproduire dans vos aquariums. Allez, l'émission Apollo dans un instant. Don't Dry, c'était Hills à l'instant.
Apollo 11, Houston.
Ici Houston, 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 Houston.
La tête au carré.
Voilà, direction la Lune cet après-midi à travers le récit des missions Apollo. C'est le dossier de la tête au carré avec Philippe Hénarejo, journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Et cet ouvrage, Ils ont marché sur la Lune, le récit inédit des explorations Apollo. C'est aux éditions Belin avec une préface de Bertrand Piccard. Et puis Charles Frankel, vous êtes géologue et planétologue et auteur d'un autre livre, L'aventure Apollo. Comment ont-ils décroché la Lune, qui paraît chez Duno, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Toutes les questions, peut-être les témoignages aussi, les souvenirs de ces émissions à la télévision, enfin de ces retransmissions en tout cas à la télévision sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Est-ce que d'ailleurs on a pu tout voir à l'époque après Apollo 11, Charles Frankel, dans les retransmissions télé de ces marches lunaires?
Bah, ça dépend en fait des télévisions. Hein. Ouais. Très rapidement, rien que les Américains eux-mêmes se sont désintéressés des vols Apollo.
Ça, c'est
déjà Apollo 12, la caméra est tombée en panne de télévision.
Ça commençait bien.
Ça commençait bien. Je crois qu'Apollo 15, il y a eu un regain d'intérêt à cause de la caméra couleur télécommandée depuis la Terre. On a eu des images superbes à partir d'Apollo 15 en 1971.
Oui, alors dites donc, quelle ingratitude quand même pour les astronautes, Philippe Hénarejos. Parce que c'est vrai qu'après Apollo 11, qui pourrait nous citer ne serait-ce qu'un nom d'astronaute aujourd'hui?
Non, mais c'est étonnant cette histoire de retransmission. Apollo 11, c'était quand même la mission au cours de laquelle la caméra et les moyens techniques étaient les plus mauvais et de loin. Alors Apollo 12, il y a eu un incident, pas de retransmission, donc pas d'image télévisée.
Ouais.
Mais les quatre autres missions, ça s'est considérablement amélioré. Et à chaque fois, ça s'améliorait. Et on avait, même à Houston, un réalisateur à distance. Parce qu'il y avait une caméra couleur qui était montée à la fin sur les trois dernières missions, sur le rover lunaire, la voiture qui permettait aux astronautes de se déplacer, et qui était pilotée depuis Houston. C'était un homme qui s'appelait Ed Fendel, qui était un ingénieur, et qui suivait les astronautes dans leur balade sur la Lune, qui explorait pour les géologues à distance les montagnes qui étaient autour, et on avait une qualité d'image extraordinaire, sauf que personne aux États-Unis ne regardait ça.
Incroyable.
Personne ne regardait ça. Il y a eu un regain d'intérêt avec Apollo 13 parce qu'il y a eu l'accident dont on a beaucoup parlé, là il y avait la vie des astronautes était en danger, mais l'émission suivante, surtout les dernières, il y avait un petit résumé à 23h30.
Et tout le monde s'en fichait.
Et tout le monde s'en fichait. Et on regardait les séries.
Charles Frankel, vous pensez que ce serait comme ça aujourd'hui encore? C'est-à-dire qu'on va s'intéresser probablement au prochain voyage lunaire, et qu'ensuite ça deviendra extrêmement banal comme un tir de fusée Ariane aujourd'hui?
Alors le premier vol à nouveau sera le vol mythique que tout le monde regardera, mais effectivement ça va passer, hélas, sans doute. Sauf s'ils inventent, on va dire, un gain d'intérêt pour les missions suivantes. Pendant les vols Apollo, il y avait pourtant ça. Chaque vol était plus complexe, allait dans des endroits de plus en plus spectaculaires, mais ça n'a pas suffi.
Oui.
Donc c'est vrai que...
Il faut inventer des choses pour effectivement capter l'attention des téléspectateurs. Comment est-ce que tous les deux avaient travaillé justement pour enquêter sur ces missions Apollo, dont on a quand même l'impression de connaître pas mal de choses? Est-ce qu'il restait, Charles Frankel, des choses à découvrir, des documents à
exhumer? Ah, il y a toujours, parce qu'il faut passer du temps, il y a toujours des choses à découvrir. En particulier, donc Philippe disait, il le dira encore, qu'il a épluché une quantité incroyable de documents. Personnellement, j'ai fait pareil au niveau des dialogues, parce que je voulais saisir un petit peu, voir des choses inédites que je n'avais pas entendues. Et c'est vrai que je me suis aperçu, il y avait les astronautes, mais ils étaient drôles, ils avaient un sens de l'humour, même dans le danger, qui m'a scotché. Il y avait plein de dialogues dont je me souvenais plus. Et puis en plus, je les ai rencontrés. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'en rencontrer pas mal dans quand j'étais à l'université et que j'ai fait des missions avec eux. Donc, voilà, il y en a certains qui me parlent, on va dire.
Qu'est-ce que ça veut dire faire des missions avec d'anciens astronautes
J'en ai...
J'aimerais en savoir plus, quand même.
Moi aussi.
C'est juste aller dans les bars, prendre un verre avec eux.
Alors, ça, il y a eu, avec Al Shepard. On a passé pas mal de temps dans les bars. J'ai fait venir Harrison Schmitt, et donc l'astronaute d'Apollo 17, et Pete Conrad, le commandant de bord d'Apollo 12, je les ai fait venir dans la chaîne des Puits en Auvergne, dans le cadre d'un tournage que j'ai organisé pour leur faire décrire la Terre. Je leur dis, c'est comme un vol Apollo, vous avez 24 heures, vous atterrissez au milieu des volcans, et vous allez devoir nous décrire la Terre.
Ouais.
Et on avait un centre de contrôle, Voilà, donc j'ai fait des coups comme ça, on va dire, avec les astronautes, qui étaient, bon, j'ai passé des moments fort sympathiques.
Philippe Hénarejos, de votre côté, comment s'est fait la recherche alors de documents? Ça fait 3 ans que vous travaillez aussi sur cet ouvrage.
Alors, je n'ai pas eu la chance de croiser autant les astronautes que Charles Frankel. Et donc, entre-temps, beaucoup sont devenus très vieux et sont morts. Certains sont morts pendant que je travaillais. Je n'ai hélas pas pu les interroger, certains. Ouais. J'en ai quand même eu plusieurs au bout du fil qui m'ont raconté pas mal de choses. Donc, j'ai travaillé à partir de toutes les vidéos, de tous les films, de toutes les photos, et croyez-moi, il y en a beaucoup, qui ont été tournées et obtenues sur la Lune. Ouais. J'ai travaillé, comme Charles, sur toutes les transcriptions des dialogues. Je les ai fait en entier tous pour essayer de voir, tirer ce qui était intéressant pour pouvoir raconter finalement ce qui n'avait jamais été fait, non pas que ce soit caché, mais qui n'avait jamais été synthétisé, c'est-à-dire la première exploration d'un autre monde que la Terre par des humains. Oui. Toutes les histoires d'exploration d'autres mondes sont des fictions. Celle-là, c'est la seule qui soit vraie. Et bizarrement, je me suis aperçu après tout ce temps. C'est pour ça que j'ai mis tout ce temps avant de me lancer seulement dans ce livre. Je pensais que tout avait déjà été dit. En fait, c'était pas le cas. J'ai mis un temps infini à me rendre compte que finalement, cette exploration-là, qui est quand même extraordinaire, n'avait jamais été racontée.
Ouais. Alors, il y a évidemment ces missions, hein, Apollo 1 jusqu'à Apollo 17, avec évidemment des aventures inhérentes à chacune d'entre elles. On va commencer quand même par la première, parce qu'elle a été complètement dramatique. Apollo 1, avec ce document d'époque, en un mot, Philippe Hénarejos, qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là?
C'est une répétition de lancement, de compte à rebours. Il n'y a même pas de carburant dans la fusée. Les 3 astronautes sont à bord. On a fermé les écoutilles. Il y a des problèmes de transmission. Et à un moment donné, il y a dans le câblage une étincelle. Et comme l'atmosphère, c'est de l'oxygène pur, le feu se propage très vite. Et surtout, il y avait un défaut énorme, c'est qu'on ne pouvait pas ouvrir l'écoutille rapidement pour les sortir de là. Et donc, il fallait 15 minutes pour ouvrir. C'était trop long. Ils sont tous morts, carbonisés, asphyxiés.
1967, hein, c'était oui, sur France Inter, dans la voix de Jean-Pierre Elkabbach.
C'est maintenant certain, avant de mourir coincés dans leur capsule Apollo sur la plateforme 34 de Cap Kennedy, les 3 cosmonautes américains ont lancé un appel au secours. C'est le général Samuel Phillips, directeur du programme Apollo, qui fait cette révélation.
Virgil Grissom, le pilier des grandes premières spatiales, Edward White, premier piéton américain de l'espace et un nouveau venu dans la conquête du cosmos, Roger Chaffee, répétaient les gestes qu'ils auraient dû faire le 21 février, date du premier vol expérimental Apollo.
Soudain, à 10 minutes de la mise à feu simulée, l'appel au secours a grésillé dans le micro de l'interphone reliant la capsule au personnel au sol. Cette voix, elle disait qu'un incendie venait de se déclarer à bord de l'habitacle. Ensuite, l'incendie n'a duré que quelques secondes et il a dû provoquer la mort instantanée des 3 hommes. Après cette catastrophe qui est aussi une tragédie, comment l'opinion américaine a-t-elle réagi à cette terrible catastrophe?
La presse ici a paru avec une bordure noire en signe de deuil. C'est la première catastrophe spatiale américaine et d'envergure. Et c'est vraiment une peine immense qui envahit les États-Unis. Les drapeaux ont été mis en berne d'une côte à l'autre des États-Unis.
Voilà, ça commence mal, hein. Première mission Apollo en 1967, Charles Frankel, et cette tragédie avec 3 morts. L'Amérique est aussi en colère d'ailleurs, hein.
L'Amérique est en colère et surtout les astronautes eux-mêmes, parce que Frank Borman, qui est un autre astronaute, est convoqué pour aller voir les décombres. Il se glisse le lendemain à l'intérieur de la capsule carbonisée pour tout étudier, relever tous les détails, dans quelle position sont tous les interrupteurs, quel est l'état des câbles, etc. Et sa colère monte à fur et à mesure. Il se rend compte qu'il y a eu un nombre de raccourcis qui ont été pris pour que cette capsule soit prête à temps, qui était, on va pas dire criminel, mais qui est...
Voilà. Il y a une suite d'erreurs flagrantes.
Il y a une suite d'erreurs. Alors le coût, effectivement, de, comme disait Philippe, de l'oxygène pur, ensuite on a changé ça. Le coût que la porte ne s'ouvre, que prenne 2 minutes et demie à s'ouvrir ou quelque chose comme ça, on a changé ça. À partir de ce moment-là, elle pouvait s'ouvrir en 5 secondes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en 1 an et demi, une nouvelle capsule était prête, et elle était tellement meilleure que la première. On se demande si avec la première, il serait jamais arrivé justement à conquérir la Lune. Donc d'une certaine façon, le sacrifice de ces 3 astronautes a servi à quelque chose.
Ouais, sauf que Philippe Hénarejos aurait pu condamner à tout jamais finalement les programmes spatiaux ensuite, non?
Oui, ça aurait pu, mais à l'époque encore, on était dans cette dynamique... d'État contre État.
Russie
contre États-Unis. Les États-Unis n'allaient pas lâcher le morceau avec un investissement qui était énorme. En 1967 encore, on était au pic, je crois, de l'investissement Apollo. Il était hors de question d'abandonner.
Ouais. Allez, on part sur la Lune dans un instant. D'ailleurs, l'actualité, bien, il y a évidemment ce 50e anniversaire l'année prochaine, mais aussi l'anniversaire d'Apollo 8, hein, parce que ça, c'est très important. Et vous dites même probablement que c'est le plus important de tous, parce que c'est vraiment le démarrage du voyage vers la Lune. Et puis au cinéma, d'ailleurs, le 17 octobre prochain, il y aura un film, Philippe Narjos, avec Ryan Gosling.
Absolument. Hein, j'ai eu la chance de le
first
voir.
First Man, le premier homme.
Je suis allé le voir en projection de presse.
Il joue le rôle d'Armstrong.
Il joue le rôle d'Armstrong, Ryan Gosling.
Ouais. Il faut aller le voir.
Il faut aller le voir.
Bon, il faut attendre jusqu'au 17 octobre. Puis en attendant, on part ensemble donc à l'occasion de ces missions Apollo.
Qu'est-ce que j'irais faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne. Ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Tu serais là si je repartais à zéro, à me rappeler les vraies choses, à calmer mes névroses. J'avais un petit diable sur mon épaule, maintenant j'ai ta tête sur mon épaule.
Qu'est-ce que j'irais faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qui le donne à d'autres le paradis? Je n'en voudrais pas.
Notre amour est la seule vérité. Nos enfants donneront aux nazis l'envie d'avoir des enfants métissés. Main dans la main, vieux et fripé. On se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées, à danser au milieu du salon, tu t'as fait dans 2 heures. Les yeux imbibés d'alcool, déguisés en chopper. Quand tu te marrais à mes blagues les plus nulles, quand on se donnait des surnoms ridicules. On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais, et plus je me sens béni. Assez béni pour t'emmener à l'église. Dire au prêtre, oublie les trucs où la mort nous sépare, on va rester dans cette vie. On aura plein d'enfants parce qu'il y a que ça qui compte. On dormira en pile et comme des maxi-monstres. Je vais enfin pouvoir me poser la réponse à toutes mes questions, s'endort à mes côtés.
Qu'est-ce que j'irais faire au paradis?
Paradis, c'était Aurel San.
Ici Houston, la description du cycle lunaire a commencé.
One small step for man, one giant leap for mankind.
La tête au carré.
Voilà, Philippe Hénarejos avec ce livre, Ils ont marché sur la Lune, et ce récit inédit des explorations Apollo, c'est aux éditions Belin. Et puis Charles Frankel, pour compléter avec son aventure Apollo, comment ont-ils décroché la Lune, aux éditions Dunod. C'est absolument passionnant parce qu'il y a une foule d'anecdotes. Alors vraiment, pour faire le choix, ça a dû être terrible pour vous deux, hein, parce qu'il faut vraiment sélectionner les récits. Et bah oui, on a des longueurs, quoi. On est, ouais, on est tenu par une certaine longueur de livre et il faut faire des choix.
Ouais, à la fois je me suis cantonné à ce qu'ils faisaient sur la Lune. C'est-à-dire que le voyage, comment ils y sont arrivés, c'est bien. Nos ouvrages sont sans doute à ce titre-là complémentaires. Ouais. Tout ce qu'il y avait avant, après, la sélection des astronautes qui est très intéressante.
Ouais.
J'ai un peu passé sous silence. Mais je me suis concentré à raconter ce qu'ils ont fait sur la Lune.
Oh, il y a Apollo 8 quand même.
Oui, Apollo 8, c'est la mise en bouche. C'est pour ça que je
l'ai mis
en entrée de ce livre. Ils n'ont pas marché sur la Lune. J'ai fait un petit chapitre sur Apollo 8. Mais c'était quand même la première fois que des humains faisaient la traversée, la grande traversée entre la Terre et la Lune, et voyaient de leurs yeux la face cachée de la Lune. C'est le rêve de la Terre à la Lune. C'est le roman de Jules Verne.
On est vraiment dans Jules Verne, effectivement. Charles Frankel, donc ce vol Apollo 8, il faut quand même en dire un petit mot, parce que d'abord, c'est vraiment un tournant dans la course aussi entre les Américains et les Russes.
J'en parle justement pas mal dans mon bouquin, parce que je le trouve presque aussi important qu'Apollo 11. C'est vraiment le premier vol vers la Lune. C'est le vol le plus dangereux. C'est là où les Américains prennent le plus de risques, parce que ils sont vraiment les Soviétiques. Ils pensent que les Soviétiques, la CIA leur dit qu'un tir est imminent, que les Soviétiques vont les battre à nouveau en faisant le tour de la Lune avant eux. Il n'y en est pas question. La NASA décide d'improviser totalement, alors que rien n'est prêt.
Donc les risques sont énormes, quoi.
Alors figurez-vous que les risques à l'intérieur de la NASA étaient qu'ils avaient une chance sur deux seulement de revenir.
Bah oui,
ils le disaient pas. Et les astronautes eux-mêmes le savaient. Les astronautes se donnaient un peu plus de chance. Ils se donnaient 2 chances sur 3 de revenir vivant. Ouais. Vous vous rendez compte les risques? Incroyable.
Et en plus, donc, Borman, Lowell et Anders, hein, ce sont les 3 astronautes, font le tour de la Lune. Alors, c'est-à-dire que voilà, pour eux, c'est la frustration absolue. Parce qu'ils voient la Lune, mais ne s'y posent pas, Philippe Hénarejos. Hein, et ça se passe en décembre 68.
Alors, ils ne peuvent pas s'y poser parce qu'il y a une raison simple. Le module lunaire, le vaisseau qui doit permettre de se poser sur la Lune, n'est pas prêt. Et c'est d'ailleurs la NASA a d'ailleurs mis cette mission d'aller autour de la Lune. Elle a inversé l'ordre des missions et ça devait arriver beaucoup plus tard. À cause effectivement de rapports qui font état de survol de la Lune par des vaisseaux zondes russes qui étaient inhabités. Enfin, pas tout à fait, il y avait des tortues à bord. Les premiers êtres vivants
elles
à avoir fait
elles sont revenues vivantes.
Elles sont revenues vivantes, donc c'était des tortues soviétiques qui ont fait les premiers êtres vivants à avoir fait le tour de la Lune. Et la NASA redoutait de se faire rebattre encore une fois. Même si les Russes étaient encore moins prêts que les Américains de se poser sur la Lune, ils allaient encore médiatiquement l'emporter. Et il y avait d'ailleurs chez les Russes, Alexei Leonov, qui était le premier piéton de l'espace, celui qui a fait la première sortie en scaphandre dans l'histoire, qui poussait à la roue pour aller dans le vaisseau zonde faire un tour autour de la Lune, alors que ce vaisseau n'était pas prêt. Et les ingénieurs lui disaient non, on ne veut pas. Ils ont tenu. Ouais. Ils sont prêts
à mourir. Hein,
prêts à mourir pour se sacrifier. Quand Anders, Lowell et Borman font le tour de la Lune, ils font pas simplement un petit tour comme ça. Ils se satellisent. Quand on parlait de risque, il faut savoir que la satellisation du vaisseau Apollo, elle repose sur un seul moteur qu'on appelle le SPS. Ce moteur, soit il s'allume, soit il s'allume pas. S'il s'allume pas, on se satellise pas et on n'est pas sûr de pouvoir revenir sur la Terre. Par contre, une fois qu'on est autour de la Lune, s'il ne se rallume pas pour revenir sur la Terre, on est sûr de rester autour de la Lune et on est mort.
Alors, Françoise demande combien de temps il faut pour aller sur la Lune, tiens, et combien de kilomètres nous en séparent
Alors, eux le faisaient en 2 jours et demi vol. On peut le faire plus vite. Le tout, c'est que c'est l'histoire d'avoir une voiture et qu'est-ce que vous mettez dans le coffre. Si vous allez avec rien dans la voiture, vous allez très vite. Si vous mettez la belle-mère, le chat, la valise, vous allez plus lentement. Et là, c'est le cas.
Et le rover.
Donc, ils prennent finalement la trajectoire presque la plus lente, mais maintenant, on pourrait y aller en une journée à peu près.
Une journée, donc 384 000 km
en moyenne.
C'est ça, donc c'est assez rapide quand même pour aller sur notre satellite. Paul demande, l'émission Apollo se termine en 1972. Pourquoi, messieurs? Décision financière, scientifique, économique? Alors, Philippe Hénarejos.
À mon avis, donc, décision financière, c'est évident. Politique, oui, parce que le but de Kennedy, battre les Russes, but affiché en 61, il est fait. Ils sont battus à plate couture, ils ne marchent même pas sur la Lune en deuxième. Et ensuite, elle est politique, mais politique au sens large, c'est vraiment qu'il y avait un désintérêt total des politiques. Ils disaient, ça coûte cher, on va finir par avoir un accident à force aussi. et de la population. Personne ne s'y intéresse aux États-Unis, c'est ça qui est fou. La dernière mission en décembre 72, c'est la plus fantastique. Les deux astronautes, Schmidt et Cernan, ils font des road movies, des road trips sur la Lune incroyables. Ils vont jusqu'à 7 km de leur module lunaire, ils prennent des photos incroyables, ils explorent des choses.
Ils ramènent pas mal d'échantillons aussi.
Ils ramènent énormément d'échantillons. Ouais. Ils comprennent plein de choses, mais tout le monde regarde ailleurs. On s'en fiche.
Ouais. Alors d'ailleurs, c'est assez incroyable, vous qui êtes géologue, Charles Frankel, c'est-à-dire qu'on apprend en lisant vos ouvrages que le seul géologue qui a embarqué et qui n'était pas pilote professionnel ou astronome professionnel était un géologue justement, et c'est la dernière mission Apollo.
Tout à fait, c'est Harrison Jack Schmidt, parce qu'il faut bien voir que nous sommes dans les années 60, ce sont des pilotes d'essai. Maintenant, on voit bien sûr, nos astronautes sont des pilotes, mais aussi des médecins, des physiciens, etc. Ouais. À l'époque, non. Et c'est qu'à la fin qu'il y a une sélection qui est lancée pour des scientifiques qui ne sont pas pilotes d'essai, mais on leur dit, voilà, vous pouvez poser votre candidature, si vous êtes reçu, vous devez apprendre à piloter un avion à réaction. C'est ce qu'a fait Jack Schmidt. Ouais. C'est un géologue, il va commencer un boulot dans un centre en Arizona, et puis son mentor lui dit, mais pose ta candidature. Et il le fait, il le remporte, il va passer une année sur une base de l'US Air Force à piloter un avion de chasse, et ce sera le seul géologue à poser sur la Lune. Et en plus, c'est parce que le Congrès américain a mis beaucoup de pression pour qu'ils volent. Sinon, c'était que les pilotes d'essai qui devaient y aller. Ils étaient une confrérie.
Est-ce qu'en tant que géologue, il a trouvé de la belle roche, lui,
Il a fait un boulot fantastique. Cela étant, les astronautes avant lui, qui étaient pilotes d'essai et qui ont été formés à la géologie par des profs qui ont fait des études sur le terrain, aux météores cratères, sur les volcans, ont fait un boulot remarquable. Ils avaient quand même un niveau équivalent à une licence au moins de géologie quand ils sont allés.
Ouais.
Certains ont dû se forcer, ils n'aimaient pas ça. D'autres se sont pris au jeu.
Ouais. Est-ce que c'est lui qui fait du football avec la plus vieille roche jamais trouvée sur la Lune, Philippe? Qui raconte ça?
Le coup du football, c'est parce qu'il voulait retourner une roche pour prendre des échantillons en dessous.
On considère que c'est la première partie de foot lunaire, en tout cas, c'est une roche très ancienne.
C'est ça. Je crois que c'est au cours de la mission Apollo 17, c'est Jack Schmidt qui fait ça.
Il me semble bien.
Alors Apollo 12, il y a du bowling déjà, parce que Pete Conrad a pour mission de faire rouler un caillou sur la pente d'un cratère pour voir comment... ça se passe sur la Lune.
Eh bien justement, les roches, les cailloux, les programmes géologiques sont extrêmement importants et on écoute justement un extrait autour d'Apollo 11 et des roches lunaires, c'était donc en 69.
Houston.
Ici Houston. Houston.
Les deux astronautes ont rempli leur mission à 100%. On a maintenant des renseignements sur la nature, des matériaux qui ont été trouvés. Armstrong les a décrits. Il y a des roches cristallines, il y a des roches brûlées qui ressemblent à des gneiss, et il y a des sortes de rochers qui sont gris à l'extérieur et qui sont roses à l'intérieur. Comment sont-ils roses? Comment sait-il que ces rochers sont roses? Tout simplement parce que lorsque le LEM s'est posé, le choc des gaz suffisamment violent a projeté quelques-uns de ces petits rochers qui se sont cassés, et là on a pu voir l'intérieur. De toute façon, les géologues de la NASA travaillent déjà sur ces échantillons par radio avant de les avoir en main et de voir exactement comment ils sont faits et de quoi ils sont faits.
Ah, il faut voir la tête de Charles Frankel et Philippe Pénard-Réjos pendant l'écoute de ce son. Vous avez l'air très dubitatif. Hein. Alors, rétablissez la vérité. Alors, plusieurs années plus tard.
Qui a épluché ça. Est-ce que tu as vu dans leur description
des roches roses?
Il a parlé de roches cassées ou
non,
ça ne dit rien.
Ce que j'ai vu, c'est des brèches d'impact, c'est-à-dire des mélanges de roches météoritiques avec certainement des laves, puisqu'on est dans la mer de la tranquillité et que c'est une vaste étendue de lave. C'est à peu près tout. Hein. Ouais. Et puis, il y a peut-être des morceaux, mais alors ça, c'est pas en le regardant sur place qu'ils ont pu le savoir. Non. Il y a des morceaux de l'ancienne croûte de la Lune qu'on a pu voir après au microscope, parce que justement, tout ça, ça a été mélangé. Il faut savoir que la surface de la Lune s'est bombardée en permanence. Enfin, ça a été bombardé il y a très longtemps, il y a 4 milliards d'années, par les météorites qui étaient très, très, très nombreuses.
D'où les cratères partout.
Voilà. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, mais ça continue. Et donc, ça fait une surface qui est ce qu'on appelle le régolithe, qui est un mélange de ces impacts. Et donc, tout ça est broyé, mélangé. Et donc, on retrouve un peu des portions de tout. Il y a des éjectas qui viennent d'ailleurs, qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres, qui se mélangent aux roches fondues locales. Donc, quand vous les observez après au microscope, vous faites beaucoup plus de découvertes qu'à l'œil, comme ça.
J'ai eu la chance d'en étudier au microscope, dans des cours que je donne, et la NASA donc m'envoie des roches lunaires, et en fait, sous la forme d'espèces de diapositives, c'est-à-dire des tranches très fines, qu'on appelle des thin sections, je ne sais plus comment on dit en français, des lames minces. Et on les met sur un microscope, et c'est comme un vitrail, c'est comme les panneaux d'un vitrail, les couleurs sont magnifiques, parce que les minéraux de la Lune sont purs, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Donc, elles ne sont pas rongées par des oxydes, et des choses, c'est un vitrail et c'est absolument merveilleux.
Donc vous avez touché la roche lunaire de vos mains.
Et ben voilà, c'est ça. Et oui.
Ouais. Parce que Apollo 11, il y a eu 20 kilos à peu près d'échantillons à Felipe Naringeos, ce qui est assez peu comme ça, mais finalement ces échantillons, et il y en a eu d'autres bien sûr au fil des missions, ont servi et servent toujours aux scientifiques, c'est-à-dire qu'ils sont toujours très étudiés.
Oui, la plupart de ces échantillons sont restés encore inexploités. On les exploite avec parcimonie. Charles le dirait mieux que moi. Je crois qu'il avait écrit un article pour Ciel et Espace
il n'y a pas longtemps, justement.
Sur ce sujet-là, ouais. Où effectivement ils sont entreposés. On en garde aussi certains, je crois, sous vide, en attendant d'avoir de nouvelles méthodes d'investigation qui seraient non destructives, parce qu'on n'est pas prêt d'y retourner. Et la preuve, c'était il y a 50 ans, on n'y est pas retourné depuis. Donc pour voir si on ne peut pas faire des nouvelles découvertes, et ça sert toujours. C'est d'ailleurs l'étude de ces échantillons-là qui, il y a quelques semaines, quelques mois, ont conduit à revoir un petit peu le scénario de formation de la Lune avec, au début, on était sur un impact d'une proto-Mars contre une proto-Terre. Alors, ça faisait deux planètes un peu différentes en taille. Et là, on est plutôt sur des tailles voisines. On est en train d'affiner tout ça. Il faut savoir que ces échantillons-là, pendant longtemps, ça a été les seuls qu'on ait eu d'un autre corps céleste que la Terre. Et c'est grâce à la Lune qu'on date la Terre, le système solaire et toute la chronologie, y compris sur Mars. Donc c'est très important. Ça continue à parler.
Allez, on se retrouve dans un instant et d'autres messages pour vous sur franceinter.fr.
Un homme pouvait être blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître.
C'est les azous,
c'est les azous.
Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales,
avec un veston qui descend jusqu'aux genoux,
les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale.
Voilà les azous,
voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier.
Moi je le suis déjà à moitié.
À votre tour, âme de césure.
Vous serez tous azous comme nous, car le azou c'est contagieux.
Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement.
Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage
un particulier coiffé d'un fromage mou,
tenant dans ses doigts un poisson dans une cage,
c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère,
mais malheureusement il ne reste que les trous,
ne supposez pas qu'il fût de la cafetière.
Et les azous,
et les azous.
Y a des azous dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra.
À son futur genre d'avant-hier, ma concierge
disait, voyez-vous, ma fille est un bijou.
Elle est encore mieux que si elle était vierge.
Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car
qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout.
Je suis quelque chose de beaucoup plus rare.
Je suis azou, je suis azou.
Et des azous dans mon quartier.
Moi, je suis déjà à moitié.
Un de ces jours, ça vous prendra. À la société de payer sa dette,
devant la guillotine, j'agène, il dit, je m'en fous.
Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête.
Je suis azou, je suis azou.
Avec une mondaine de la place Pigalle,
mon ami Léon a fait les 400 coups.
Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles.
Il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié.
Et à mon tour, un de ces jours,
on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azous, on s'y retrouvera.
Car c'est fou ce qu'on rigolera.
La douche, on chantera comme ça. Voilà tout ce que j'ai dit.
Et vous avez reconnu Brigitte Fontaine avec M, il y a des azous.
This is Houston Ici Houston, vous pouvez répéter?
Ok, Houston, we've had a problem here.
Houston, on a un problème.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, Philippe Hénarejo, c'est Charles Frankel avec nous pour parler des missions Apollo. Houston, on a un problème, c'est Apollo 13, hein, évidemment.
Absolument.
Philippe Hénarejo, voilà.
Quel problème.
Ils ont eu chaud, hein, Charles Frankel.
Ah, ils ont eu très chaud. On leur donnait pas une chance sur 10 de revenir vivant.
Ouais.
La NASA elle-même.
Allez, on reste quand même un petit peu sur Apollo 11, parce que c'est la mission qui a marqué tous les esprits. On va écouter l'arrivée de Neil Armstrong sur la Lune. Le premier pas sur la Lune, ça a été très rapide, hein, 2h31 de mission. Et donc, extrait en 1969, le monde entier était devant sa télévision.
Les images arrivent, attention. C'est fait. L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. Pour l'instant, on ne distingue pas grand-chose, cette image qui paraît assez floue, mais il faut dire qu'il n'y a pas tellement de recul. On aperçoit une fraction du sol lunaire, je pense que c'est cela. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant, et nous avons Armstrong de face, il a les deux pieds sur le sol lunaire,
il marche,
Armstrong marche, il a fait à peu près un pas maintenant, il est à un peu plus d'un pas de l'échelle du LEM, et il avance encore une fois avec beaucoup de précautions.
On dirait un scaphandrier.
Premières observations d'Armstrong, la surface paraît assez belle, le mot américain fine est difficile à traduire dans ce cas, elle est poudreuse, on a l'impression qu'on pourrait la conserver entre ses orteils si on était pieds nus. J'ai sur la semelle de mes bottes une espèce de poudre de charbon.
Voilà, et on imagine l'émotion du petit Philippe Hénarejo qui avait 2 ans hein, et du petit vu. Charles Franquet.
Tu avais quel âge, 5 ans?
Non, j'avais 2 ans.
Et vous, Charles? Moi, j'avais 13 ans. J'ai vu en direct sur une télévision. On a dû aller chez le voisin parce que nous, on n'avait même pas la télévision. Ouais. C'était remarquable, ça se passait à 2h du matin.
Mais bien sûr. Alors, il y a quand même aussi le sens de la cinématographie, parce qu'il fallait quand même penser à mettre la caméra au bon endroit pour filmer justement les pas historiques d'Armstrong foulant le pied lunaire. C'est-à-dire qu'on pouvait pas louper le truc quand même.
Mais vous savez que c'était pas évident, ça. La caméra a été montée assez tardivement sur la mission Apollo, parce que avant les missions Apollo, on était dans le programme Gemini et on emportait des caméras avec du film 16 mm qu'on développait une fois revenus. Et à la NASA, les ingénieurs pensaient pas forcément au direct. Donc la caméra a été incluse dans la mission tardivement. On s'est aperçu à ce moment-là qu'il n'y avait pas assez de bandes passantes pour les images.
Ouais.
Donc on allait réduire de 25 images par seconde à 10 images par seconde. Et c'est pour ça que quand vous voyez
c'est
les astronautes, il y a une persistance, c'est fantomatique. Qu'au lieu d'être couleur, qu'il n'y avait pas assez de bandes passantes, elle allait être noir et blanc.
Ouais. Ça a dû être terrible pour les ingénieurs de la NASA quand même. Hein.
Donc
c'est déjà du beau boulot.
Effectivement, ça a été bien de monter ça rapidement et d'avoir l'image en direct.
Ouais.
Peut-être que rétrospectivement, cette mauvaise qualité d'image a encore magnifié l'instant. Mais c'était pas gagné.
Charles Frankel. Et du coup, Armstrong a délogé la caméra du LEM.
Il doit la
planter sur le sol.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, parce que le pas de vis de la caméra était en dessous, et la seule façon de le fixer là où il voulait, les ingénieurs pouvaient le fixer dans le LEM, c'était la tête en bas. Mmh. Donc en fait, les premières 5 secondes d'image retransmise de la Lune, c'est la tête en bas. Et il faut qu'il fasse une manip en studio pour redresser l'image.
Ouais. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi pour être le premier homme à marcher sur la Lune, Charles Frankel? Ça a dû être terrible quand même comme choix.
Oui. En fait, c'est la roulette. C'est ça qu'on croit, c'est ça qu'on ne sait pas. Enfin, la presse généralement dit « Ah, il a été choisi parce que c'était un civil, parce que c'était un pilote d'essai au sang-froid ». Non, ils étaient tous, enfin pas civils, mais ils avaient tous le talent nécessaire.
Oui.
Et en fait, il y avait une façon de sélectionner les équipages, on les sélectionnait très à l'avance. D'abord, c'était un équipage doublure d'un autre équipage et qui se retrouvait 3 missions plus tard, équipage principal.
Oui.
Donc c'est complètement au hasard que Armstrong s'est retrouvé commandant de bord d'Apollo 11. Il allait être commandant de bord d'une mission, mais là, c'est Apollo 11. Ça tombe sur lui. Et ensuite, Philippe, vous nous racontez le choix entre Aldrin et Armstrong pour marcher sur la Lune.
Ça s'est décidé à quel moment, ça?
En janvier 69, l'équipage est présenté à la presse. La première question d'un journaliste à la salle de presse, c'est qui sera le premier à sortir? Et là, Armstrong commence à bafouiller une réponse en disant « Moi, ça m'est égal, ce qui compte, c'est l'intérêt de la question. » Il se tourne vers Dick Slayton, qui est un autre astronaute, mais qui est le chef des astronautes. C'est lui qui décide des équipages. « Veux-tu ajouter quelque chose ?» Il dit « On n'a pas encore vu. » Et entre-temps, pendant les semaines qui suivent, il y a un administrateur de la NASA qui dit à un journaliste que ce sera sans doute Aldrin, parce que dans l'émission Gemini, c'était pas le commandant qui sortait, c'était le pilote. Et donc Aldrin entend ça et commence à se faire à l'idée que ça va être lui. Ça commence à paraître à la presse.
Buzz Aldrin.
Voilà. Et, oui. Et il faut rectifier plus tard. Les quatre chefs de la NASA, les quatre principaux chefs de la NASA se réunissent. Et ils sont là et il y en a un qui dit, je sais pas si c'est Gene Kranz ou un autre, qui dit « Est-ce que l'un d'entre vous veut vraiment que ce soit Aldrin ?» Et là, c'est à l'unanimité, non. Aldrin avait un caractère un peu spécial parmi les astronautes. Il était un peu, comment dire, condescendant. Il avait un doctorat en rendez-vous spatiaux du MIT. Et en fait, il étalait un peu sa science quand même. Et donc, c'était quelqu'un qui voulait toujours être le premier, se mettre en avant. Et à la NASA, on avait vu ça. Et on ne se disait surtout pas ce gars-là, en fait. Et donc, à l'unanimité, ils ont décidé que ça serait Armstrong. Du reste, il y avait une autre contrainte opérationnelle, c'est-à-dire que l'écoutille s'ouvrait du côté d'Aldrin. Et c'était très exigu. Et pour qu'Aldrin sorte, il aurait fallu qu'ils interchangent leur place. Et avec les scaphandres, ils allaient tout casser à l'intérieur, les boutons. Et donc, c'est Armstrong qui était le mieux placé pour sortir en plus.
Et Buzz Aldrin, ça a dû être vraiment quand même un coup dur pour lui. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui encore, il est toujours très fantasque. Hein. On le voit sur les réseaux sociaux en permanence.
Mais il a très mal vécu ça, en fait. Hein. Il a très mal vécu, y compris après son retour. Il a déprimé et il continue à vouloir être le premier, finalement.
Ouais. Alors, les questions des auditeurs. Dominique nous dit, il paraît que les astronautes des missions avaient sur eux en rentrant des sorties extravéhiculaires, une odeur ressemblant à de la poudre noire. Est-ce vrai, monsieur le géologue Charles
Mais Franquel c'est tout à fait vrai, puisque ça réagissait, la poussière lunaire réagissait avec l'eau de leur peau. C'était une poussière qui n'avait jamais vu l'eau, donc qui s'oxydait. Et ça donnait effectivement une odeur de poudre à canon brûlée ou de suie, de combustion.
Jean demande, quels enseignements peut-on tirer véritablement de ces missions? Qu'a-t-on appris? Les similitudes avec la Terre, la formation avec les mêmes matériaux, etc.
On a partiellement répondu. On a appris l'histoire de la formation de la Terre et de la Lune. On sait que la Lune est née d'une collision gigantesque, de toute manière, avec un autre corps céleste il y a 4 milliards et demi d'années, puisque la composition de la Lune et de la Terre, les deux corps sont très similaires, et similaires à un point que ça posait quand même pas mal de problèmes, mais en gros, l'histoire c'est ça. Il y a deux planètes qui se sont percutées, qui sont annihilées, il y a du matériau qui s'est retrouvé en orbite de celle qui s'est réagrégée, qui était la Terre, et ça a formé la Lune.
Pourquoi tous les deux vous avez une préférence pour la mission Apollo 14 alors ?
Pour moi c'est la personnalité d'Alan Shepard, qui était le premier Américain à voler dans l'espace, qui ensuite a été mis à pied pour problème médical, donc il n'allait plus jamais revoler. Il est devenu le chef des astronautes. Et bon, il y avait cette personnalité. Et puis, Philippe, toi, tu as une autre...
Moi, j'ai une autre raison qui me fait presque préférer cette mission-là, c'est que pour moi, c'est la première mission où on s'éloigne vraiment du module lunaire et où on commence à explorer la Lune. Mmh. Et c'est une mission où il y a pas mal de ratés, finalement. Les géologues sont pas prêts à driver les astronautes à distance pour leur laisser passer, qu'ils laissent passer des objectifs secondaires pour aller au plus loin. Les astronautes découvrent que le paysage lunaire est extrêmement trompeur. Ils se perdent, ils n'apprécient pas les distances, ils ne trouvent pas un cratère qu'ils doivent aller voir, alors qu'en fait, ils sont passés à 15 mètres. 15 mètres, ils l'ont pas vu. C'est la mission où vraiment on apprend, c'est la première mission d'exploration. Il faut savoir qu'à pied, avec un scaphandre très rigide, les astronautes vont à 1,5 km de leur module. C'est la première fois qu'on sort du vaisseau spatial, vraiment.
On va écouter un extrait justement des actualités au moment de la mort d'Alan Shepard en 98.
Quand Alan Shepard décolle le 15 mai 1961 à bord de Mercury, sa mission consiste à restaurer la fierté nationale. Le russe Yuri Gagarin était déjà devenu le premier homme dans l'espace. À Shepard, la tâche de relever le défi. Il est l'un des membres éminents, aux côtés de John Glenn, de la fameuse équipe des 7 premiers astronautes américains retenus dans le cadre du programme Mercury.
Je n'ai pas de problème chez moi. Ma famille est d'accord.
Premier américain dans l'espace, Alan Shepard a été également l'un des 12 êtres humains à avoir jamais marché sur la Lune. Commandant de la mission Apollo 14 en 1971, il a passé 9 heures sur la surface de la Lune à travailler et à jouer.
Avant la mission, j'ai vu le patron et je lui ai dit: chef, je veux frapper une balle de golf sur la Lune. Il m'a dit: Shepard, ça fait 15 ans que vous me causez des ennuis. La réponse est non, point final.
Par souci de vérité historique, sachez que Shepard a envoyé 2 balles de golf dans l'espace et non pas une.
Voilà, très important la précision, évidemment, Charles Frankel. Alors, on apprend plein de choses hein, dans vos deux ouvrages respectifs. Qui était l'astronaute claustrophobe, ce qui est quand même un comble, Charles Frankel?
Ah ouais, bah, c'était Mike Collins.
Donc, sur Apollo 11.
Sur Apollo 11. Et en fait, il a réussi à cacher ça à la NASA. Il ne le savait pas trop lui-même. Ouais. Il s'était retrouvé en vol Gemini à faire une sortie dans l'espace en scaphandre. Il en a su à grosses gouttes. Il était, sa visière était complètement obstruée de buée. Et il a réussi à cacher à la NASA qu'il était claustrophobe.
Allez, dernière question très très vite, Pierre. Nous demande, je pense qu'il faut aborder la question du tourisme sur la Lune, je suis totalement contre, mais je veux bien entendre les arguments sur un éventuel apport de ces missions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le premier japonais là, qui va partir grâce à Elon Musk.
Il ne va pas partir.
Ah bon?
Mais non.
Vous êtes toujours d'un optimisme, Philippe.
Non, excusez-moi. Il y a des vous vous rendez compte? On vient de parler là du programme Apollo qui a coûté des milliards, qui a suscité l'engagement de toute une nation dans un effort de guerre. Bon, Elon Musk a beaucoup d'argent, on est d'accord avec SpaceX, mais quand même la fusée qu'il prévoit d'envoyer à côté Apollo, c'est un jouet. Ça va pas arriver de sitôt.
Donc vous n'y croyez absolument pas?
Non.
Bon. Moi, je parie une bouteille avec Philippe.
Ah,
on va parler de quel cru.
Et les femmes sur la Lune, au fait?
Eh bien, il faudrait que...
Jamais il n'a été question qu'une non. femme participe au.
Pourtant, il y a eu des femmes sélectionnées dès le programme Gemini, mais ouais. elles ont été écartées. Moi, je milite pour que le 13e humain sur la Lune soit une femme.
Eh bien, très bien, on va attendre ça. Donc, et on va attendre un petit moment, d'ailleurs, apparemment.
Aussi, oui.
En tout cas, merci à tous les deux, Philippe Hénarejos. Ils ont marché sur la Lune, c'est chez Belin, avec une préface de Bertrand Piccard. Et puis, Charles Frankel, de votre côté, chez Dunod, l'aventure Apollo, comment ils ont décroché la Lune. Merci beaucoup à tous les deux.